Quelques conseils pour le mois de Ramadan. Traduit d'un texte de Shir Ben Baz, Rahimullah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, de Abdelaziz Ben Baz, à celui qui le lira parmi les musulmans, qu'Allah fasse que j'emporte ainsi que les musulmans le chemin de la foi et qu'il m'accorde ainsi qu'à eux la compréhension de la Sunna et du Coran. Amin. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous ainsi que sa bénédiction. Ceci dit. Ceci est un conseil concis sur la vertu du jeûne et de la prière nocturne durant le mois de Ramadan, sur la vertu de s'empresser d'accomplir des œuvres pieuses et un éclaircissement de quelques règles importantes qui pourraient échapper à certaines personnes. Il a été authentifié du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il annonçait à ses compagnons l'arrivée du mois de Ramadan et les informait que les portes de la miséricorde et du paradis restaient ouvertes pendant ce mois, que les portes de l'enfer étaient fermées et les diables enchaînés. Il, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: lors de la première nuit du mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent et on n'en ferme aucune. Et les portes de l'enfer se ferment et on n'en ouvre aucune. Et les diables sont enchaînés. Et un héros appelle: ô toi qui veux le bien, avance-toi. Ô toi qui veux le mal, recule. Allah a les affranchis de l'enfer, et ceci chaque nuit. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi dit: le mois de Ramadan vous est venu. Mois de bénédiction de laquelle Allah vous couvre pendant celui-ci. La miséricorde descend, les péchés cessent et l'invocation est exaucée. Pendant ce mois, Allah observe votre concurrence dans l'accomplissement des bonnes œuvres et il s'en vante auprès de ses anges. Montrez donc à Allah lequel parmi vous est le meilleur en bonne action. Et certes, le perdant est celui qui est privé de la miséricorde d'Allah. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et celui qui prie la nuit d'Al-Qadr avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Dans un autre hadith, il a dit sallallahu alayhi wa sallam: Allah Tout-Puissant dit: toute bonne action du fils d'Adam est pour lui. Elle est multipliée de 10 à 700 fois, sauf le jeûne, car il est à moi, et c'est moi qui le récompense. Il, le jeûneur, abandonne pour moi ses désirs et sa nourriture. Le jeûneur possède deux joies, l'une lorsqu'il rompt le jeûne, l'autre lorsqu'il rencontre son Seigneur. Et certes, l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Il convient donc aux croyants qu'ils profitent de cette occasion qu'Allah lui a accordée d'atteindre. Cette occasion, c'est le mois de Ramadan. Donc, qu'il s'empresse vers l'obéissance, s'éloigne des mauvaises actions et s'efforce d'accomplir ce qu'Allah lui a rendu obligatoire. Surtout les cinq prières, car elles sont le pilier de l'islam et les obligations les plus importantes après les deux attestations. Il est obligatoire à chaque musulman et musulmane de les préserver et de les accomplir en leur temps avec recueillement et quiétude. De même, parmi les plus importantes obligations de la prière, pour les hommes, il faut les accomplir en commun dans la maison d'Allah, c'est-à-dire les mosquées, dans lesquelles Allah a permis qu'on évoque son nom, comme il dit, et accomplissez la prière et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. C'est Sourate Al-Baqarah, verset 43. Allah Ta'ala dit aussi ce qui peut se traduire comme: soyez assidus aux prières et surtout la prière médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Toujours dans la sourate Al-Baqarah, mais cette fois-ci verset 238. Allah Ta'ala dit dans la sourate Al-Mu'minun, verset 11, ce qui peut se traduire par: bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Et ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts qui leur sont confiés et honorent leurs engagements, et ceux qui observent strictement leurs prières, ce sont eux, les héritiers, qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le pacte entre nous et eux est la prière, celui qui l'abandonne a mécru. Et l'obligation la plus importante après la prière est l'acquittement de la zakat. Comme Allah Tout-Puissant dit: il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de la droiture. C'est Sourate Al-Bayna, verset 5. Il dit aussi dans Sourate An-Nur, verset 56: accomplissez la prière, acquittez la zakat et obéissez au messager. afin que vous ayez la miséricorde. Le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam montrent que celui qui ne s'acquitte pas de la zakat sur ses biens sera châtié pour cela le jour de la résurrection. La chose la plus importante après la prière et la zakat est le jeûne du mois de Ramadan. C'est un des cinq piliers de l'islam cité dans la parole du prophète. L'islam est bâti sur cinq. L'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du Ramadan et le pèlerinage. Il est un devoir pour le musulman de préserver son jeûne et sa prière de nuit, de tout ce qu'Allah lui a interdit comme parole et acte, car ce qui est visé par le jeûne est l'obéissance à Allah. Prendre en haute considération les limites sacrées d'Allah et l'effort de l'âme, c'est-à-dire djihad nafs, contre ses passions dans l'obéissance à son maître, afin de la forger à la patience sur ce qu'Allah a interdit. Le but n'est pas seulement de délaisser la nourriture et la boisson et toute autre chose qui annule le jeûne. Ainsi, il a été authentifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jeûne est un bouclier. Si l'un de vous jeûne, qu'il ne tienne pas de propos obscènes et ne crie pas. Et si quelqu'un l'insulte ou l'importune, qu'il dise « Je suis en état de jeûne. » Il a été aussi authentifié qu'il a dit « Celui qui ne laisse pas le mensonge et sa pratique et l'ignorance, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » On sait d'après ces textes et d'autres que le jeûneur doit prendre garde à tout ce qu'Allah lui a interdit et préserver tout ce que Allah lui a rendu obligatoire. De cette façon, on espère pour lui le pardon, l'affranchissement du feu et l'acceptation de son jeûne et de sa prière de nuit. Cependant, certaines choses peuvent échapper à certains, parmi lesquelles il est obligatoire aux musulmans de jeûner avec foi et espoir en la récompense, non par ostentation ni par suivi des gens, de sa famille et du pays. Mais il faut que ce qui l'amène au jeûne soit sa foi qu'Allah le lui a rendu obligatoire et qu'il espère la récompense auprès de son Seigneur pour cela. De même, pour la prière de nuit du mois de Ramadan, le musulman doit l'accomplir avec foi et en espérant la récompense de son Seigneur, pas pour une autre raison. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Et celui qui prie les nuits du mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et celui qui prie la nuit d'El Qadr avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront aussi pardonnés. Il y a un deuxième point qui peut échapper à certaines personnes. C'est tout ce qui concerne les blessures, les saignements du nez, les vomissements ou remontées gastriques involontaires. Donc toutes ces choses n'annulent pas le jeûne, mais par contre, pour celui qui s'est fait vomir, cela annule son jeûne d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui vomit n'a pas à compenser le jeûne, et celui qui se fait vomir doit compenser le jeûne. Donc un autre point ici mentionné par le shir, c'est le fait de retarder le roussoul, c'est-à-dire de faire ses grandes ablutions après le fajr. Donc en effet, il peut arriver à certaines femmes d'être en période de règles et que ces règles se stoppent juste avant le fajr. Donc, juste avant le fajr, la femme, elle est en état de pureté. Donc, il lui est obligatoire de jeûner. Mais cependant, il n'y a pas de mal à retarder le roussoul jusqu'à l'arrivée du fajr. Mais elle ne doit pas le retarder jusqu'au lever du soleil, c'est-à-dire jusqu'au shuruq. Au contraire, elle doit se purifier et prier avant le lever du soleil. De même, pour celui qui est en état d'impureté majeure, c'est-à-dire après un rapport sexuel ou une éjaculation, il ne doit pas retarder le roussoul jusqu'après le lever du soleil, mais il doit se purifier et prier avant le lever du soleil. En effet, l'homme doit se presser de le faire afin de pouvoir accomplir la prière du fajr en commun. Autre chose parmi les choses qui n'annulent pas le jeûne, la prise de sang et l'injection non nutritive, mais le fait de le repousser jusqu'à la nuit est prioritaire et meilleur. Si cela est possible, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse ce qui te jette dans le doute pour ce qui ne t'y jette pas. Et une autre parole, celui qui délaisse les ambiguïtés a préservé sa religion et son honneur. Autre chose parmi celles dont le jugement échappe à certains, l'absence de quiétude dans la prière, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire. Les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam montrent que la quiétude est un des piliers de la prière, sans laquelle la prière n'est pas valide. La quiétude et le calme, c'est-à-dire l'immobilité, dans la prière et le recueillement et l'absence d'empressement jusqu'à ce que chaque vertèbre revienne à sa place. De nombreuses personnes prient pendant le mois de Ramadan la prière du Tarawih sans réfléchir sur le sens des versets, sans quiétude, Au contraire, il picore et la prière accomplie de cette façon est nulle, et celui qui l'accomplit est pécheur et n'est pas récompensé. De plus, parmi les choses dont le jugement peut échapper à certains, l'opinion de certains qu'il n'est pas permis de prier moins de 20 rakat pour Tarawih, et l'opinion de certains qu'il n'est pas permis de prier plus de 11 ou 13, et toutes ces opinions sont déplacées et elles sont une erreur qui contredit toutes les preuves. Les hadiths authentiques du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam montrent qu'il y a une certaine largesse pour la prière de la nuit. Il n'y a pas de limite définie qu'il n'est pas permis de dépasser. Au contraire, il a été authentifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 11 rak'a pendant la nuit et il a pu en prier moins pendant Ramadan ou en dehors. Lorsqu'il a été interrogé sur la prière de la nuit, il a dit: priez-la paire par paire. Et si l'un d'entre vous craint que le soubh n'arrive, qu'il prie une raka qui rendra impair ce qu'il a prié. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il n'a pas précisé un nombre de raka ni pendant Ramadan ni en dehors. C'est pourquoi les compagnons, à l'époque de Omar, radiallahu anhu, ont prié jusqu'à 23 unités de prière et d'autres fois 11 unités de prière. Tout ceci a été authentifié de la part de Omar et des compagnons de son époque. Certains salafs priaient pendant le mois de Ramadan 36 unités de prière et en ajoutaient 3 pour le witr. D'autres priaient 41 unités de prière. Shir al-Islam ibn Taymiyyah et d'autres ont rapporté ceci des gens de science et comme il l'a rappelé, il y a une certaine largesse dans cette question. Et il a également rappelé qu'il est meilleur pour celui qui allonge la récitation, l'inclinaison et la prosternation de réduire le nombre d'unités de prière. Par contre, pour celui qui raccourcit la lecture, l'inclinaison et la prosternation, il est meilleur pour lui d'augmenter le nombre d'unités de prière. Ceci va dans le sens de sa parole. Celui qui médite sur la sunna verra qu'il est meilleur de prier 11 ou 13 unités de prière pendant le mois de Ramadan ou en dehors, car c'est là que s'est arrêté l'acte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la plupart du temps. De même, c'est ce qui est moins contraignant pour les musulmans et plus proche du recueillement et de la quiétude. Il n'y a pas de mal à rajouter dans le nombre d'unités de prière. Cela n'est pas détestable, comme on a pu le voir. Il est préférable pour celui qui prie avec l'imam la prière de nuit qu'il s'en aille avec l'imam, d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si l'homme prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il parte, on lui écrit la prière d'une nuit entière. Il est conseillé à l'ensemble des musulmans de faire des efforts dans les différentes adorations durant ce mois béni, parmi lesquelles sont les prières surrogatoires, la lecture du noble Coran avec méditation et réflexion, l'augmentation du dhikr, la demande de pardon, les invocations légiférées, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, le fait d'appeler à Allah, c'est-à-dire de faire da'wah, d'aider les pauvres et les indigents, de faire des efforts dans l'obéissance aux parents, d'honorer les liens de parenté, de s'occuper de son voisin, de visiter le malade et d'autres choses encore parmi les diverses bonnes actions. Pour preuve à ceci, le hadith que l'on a cité plus haut, mais qu'on va répéter maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pendant ce mois, Allah observe votre concurrence dans l'accomplissement des bonnes actions et s'en vante auprès de ses anges. Montrez à Allah lequel parmi vous est le meilleur en bonnes actions. Et certes, le perdant est celui qui est privé, pendant ce mois, de la miséricorde d'Allah. On rapporte aussi un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accomplit pendant le mois de Ramadan un acte parmi les actes de bien est comme celui qui accomplit une obligation en dehors du mois de Ramadan. Et celui qui accomplit une obligation est comme celui qui en accomplit 70 en dehors du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit: une umrah accomplie pendant le mois de Ramadan est comme la récompense d'un hajj, ou il a aussi dit, est comme la récompense d'un hajj en ma compagnie. Nous demandons à Allah qu'il nous accorde ainsi qu'à tous les musulmans tout ce qu'il contient comme agrément et qu'il accepte notre jeûne et notre prière, qu'il améliore nos situations et nous fasse revenir des égarements des tentations. Nous lui demandons aussi qu'il améliore les gouverneurs des musulmans et qu'ils réunissent leurs paroles sur la vérité. Il est certes celui qui possède cela et celui qui en est capable. Wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.